J'aimerais vous lire un très court passage que nous allons étudier ensemble au cours de cette prédication. Un passage très connu, le début des 10 commandements. Dans le livre de l'Exode, les versets 2 à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut, dans le ciel, ici-bas, sur la terre, ou dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Alors vous avez bien compris que la prédication d'aujourd'hui va s'axer sur le thème de l'idolâtrie. Thème un peu étrange, qui peut nous sembler dépassé, qui concernait peut-être des civilisations plus primitives, mais nous, pas vraiment. Mais je pense quand même que ce thème reste très présent de nos jours, quoique peut-être de manière beaucoup plus insidieuse. Nous verrons ça ensemble. Alors, tout d'abord, revenons à notre texte. Si nous considérons que le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, ont été écrits par Moïse, on peut dater la rédaction de notre texte à la louche, aux alentours de 1300 avant Jésus-Christ. Il y a plus de 2300 ans. Donc, l'idolâtrie, à l'époque, avait une présence bien différente d'aujourd'hui, bien plus visible. Chaque peuple avait ses dieux, souvent plusieurs. Tous, chacune de ces divinités, ont une représentation, comme une statue, un poteau sacré, ou alors un élément de la nature, une colline, un volcan, le soleil lui-même. Et les humains s'en remettent à ces divinités pour tous les aspects de leur vie. Tous les aspects de leur vie. Et j'aimerais parler un peu plus de cette représentation physique qu'ils construisent, de ce Dieu qu'ils imaginent. Cette représentation physique, cette statue par exemple, n'est pas qu'une aide visuelle à l'époque. Je veux dire, on pourrait penser que, bon, ils font une statue, mais ils savent que c'est pas physiquement leur Dieu, que leur Dieu est autre, invisible, immatériel, comme le nôtre. La statue ne serait alors qu'une représentation, une aide visuelle pour adorer cette divinité. Eh bien, c'est pas si simple. À l'époque, il semble bien que pour les adorateurs, la statue, la représentation, soit la divinité elle-même. Pour preuve, les adorateurs tiennent compagnie à la statue. Ils lui jouent de la musique, ils organisent des spectacles pour lui faire passer du bon temps. On lui fait même prendre des promenades, parfois quotidiennes. On sort la statue pour la promener. On s'en occupe, on la distrait, on lui apporte même à manger. Ah, la statue. Je parle pas d'offrande rituelle, je parle de repas quotidiens. Il semble bien que les adorateurs considéraient la représentation comme étant la divinité elle-même. Et d'ailleurs, un exemple biblique, un exemple malheureux, lorsque le peuple d'Israël va se fabriquer une idole, le fameux épisode du veau d'or que beaucoup connaissent, voici ce qu'ils vont dire en Exode chapitre 32. Alors le peuple s'écria « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Ils construisent un veau d'or, ils montrent ce veau à tout le peuple et ils disent « Voici ton Dieu ». Le veau, l'idole, c'est le Dieu. Ça nous semble étrange, voire carrément ridicule, il faut le dire. On a vraiment l'impression que ça ne nous concerne pas du tout. Enfin, nous verrons. Alors, quels sont les problèmes que pose l'idolâtrie ? Pourquoi Dieu prend la peine de l'interdire dans le tout premier des 10 commandements ? Le problème, c'est pas de sculpter une statue ou une œuvre d'art, c'est ça le souci. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vois deux problèmes principaux liés à l'idolâtrie. Alors, il y en aurait d'autres, mais je vais surtout parler de ces deux-là. Le premier et le principal problème, c'est qu'en adorant une idole, on va nier le vrai Dieu, pour le remplacer par autre chose. On va attribuer à un objet des actes que Dieu a faits. Je m'explique. Lorsqu'il fait une chose merveilleuse, Dieu mérite d'être glorifié pour ce qu'il a fait. C'est lui qui l'a fait. Dieu mérite de recevoir la gloire, donc, qui découle de tous ses actes. Il mérite la gloire pour sa création. Il mérite la gloire pour nous avoir donné la vie. Il mérite la gloire pour les délivrances, pour le salut, pour l'attention qu'il nous porte à chacun, pour qui il est, pour sa personne. Mais je vous rappelle que les adorateurs de l'époque, qui adoraient des idoles, s'en remettaient aux idoles pour tous les aspects de leur vie. Dans l'idolâtrie, tous les actes que Dieu fait pour nous, on les attribue à quelque chose d'autre. La création, les miracles, la joie, les dons du quotidien, l'honneur et la gloire qui découlent de tout ça, on ne les donne pas à Dieu, on les donne à un autre. Mais souvenez-vous de ce que dit notre texte. Ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. Dieu ne tolère pas que l'on attribue à quelqu'un d'autre les actes que lui-même a faits. C'est le premier et principal problème lié à l'idolâtrie. Le deuxième, peut-être moins évident, c'est que Dieu a créé lui-même son représentant. Dieu a fait une créature qui doit le représenter sur terre. C'est l'être humain. Alors, nous ne sommes pas une photo ou une statue de Dieu, mais nous représentons Dieu sur terre. Il est le chef, il est le maître, et il nous a délégué une certaine autorité sur cette planète. Et notamment, il nous a donné une mission, bien gérer sa création, en prendre soin. Je sais, à ce niveau, notre bilan n'est pas fameux, visiblement, mais fabriquer une autre représentation de Dieu, c'est en quelque sorte nier que nous sommes déjà ses représentants. C'est se décharger de nos responsabilités sur autre chose, et en plus sur un objet inanimé. C'est principalement pour ces deux raisons, je pense, que Dieu prend la peine d'interdire l'idolâtrie dès le premier des 10 commandements. Alors nous avons bien remarqué que l'idolâtrie de l'époque de Moïse ne correspond pas du tout à des pratiques de notre société occidentale moderne. Ça me ressemble pas du tout et je vois pas vraiment ça autour de moi. Mais n'y aurait-il pas d'autres formes d'idolâtrie moderne ? Je vais prendre quelques exemples qu'on entend assez régulièrement. Par exemple, on entend parfois dire que la télévision est une idole moderne. Quelle est une place centrale ? Je suis d'accord. Qu'on y passe beaucoup de temps, même parfois trop. Sûrement, même moi. Mais parler d'idole, dans le sens que nous avons vu plus tôt, ça me semble quand même un peu forcer le trait. Ça va pas. Un autre exemple. On parle aussi souvent de l'argent comme d'une idole. Et la Bible, d'ailleurs, parle de l'argent dans ce sens, comme d'une idole qui peut devenir le centre de notre vie, le centre de nos espoirs. C'est vrai. Dans le monde, pourquoi pas ? Et nous pouvons le voir autour de nous, d'ailleurs. Mais dans nos églises, nous recevons beaucoup d'enseignements et d'avertissements sur ce sujet, de conseils aussi. Alors, nous ne sommes pas à l'abri de cette dérive. Ça reste un danger pour chacun, mais je pense que nous en sommes assez bien protégés quand même. Donc, pas retenir cette option-là non plus. Parce que ce que je cherche, c'est quelque chose qui puisse être de manière plus flagrante et plus générale la grande idole du monde moderne. Vous commencez à le savoir, lorsque je me pose une question de société, j'aime bien avoir l'avis de ce que je considère comme le grand guide de la vie de nos contemporains. Ce guide qui doit nous dire quoi penser, quoi désirer et surtout quoi acheter. C'est-à-dire la publicité. J'aime bien avoir l'avis de la publicité sur ces grandes questions que je me pose. C'est souvent le reflet de la pensée moderne. Eh bien, la publicité m'a donné une réponse même à cette question, à cette question que nous nous posons, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait être la grande idole du monde moderne ? Gardons cette question en tête, on va regarder une publicité et puis on va reparler de tout ça après. Je cherche encore le lien entre le produit et la publicité en question. Mais c'est pas la marque qui m'intéresse, c'est le contenu de cette publicité. Cette publicité pour une célèbre marque de bière nous montre un monde, notre monde, créé par l'homme. Et le slogan que l'on entend au début est révélateur, « It's time to bring this place to life ». Il est temps de donner vie à cet endroit. L'homme doit donner vie à la terre. Alors, les hommes créent les nuages, ils créent la pluie, ils sculptent les barrières de corail, ils séparent les continents à coups de masse, ils lâchent les animaux dans ce monde, ils créent des forêts, ils entassent des pierres pour en faire des montagnes, bref, l'homme crée le monde. Et je pense sincèrement que cette publicité est révélatrice d'un état d'esprit assez omniprésent. Présent dans le monde, mais présent aussi parfois dans l'Église. Cette pensée générale est la suivante, l'homme peut. Nous connaissons ce slogan « Yes, we can ». Nous pouvons y arriver, nous pouvons faire, par nos efforts nous réussirons. Je suis capable, je suis doué. L'homme se glorifie de ce qu'il sait, de ce qu'il peut faire. Il s'approprie la gloire de ses actes, de ses capacités. On va acclamer des sportifs, on va à des artistes, on voue un culte presque à un homme politique disparu. L'homme s'approprie même la gloire de son être, de ce qu'il est, de ses qualités. Je suis beau, je suis intelligent, je suis doué et j'en suis fier. Et je parle pas de moi. C'est un peu prétentieux là. L'idolâtrie, sinon, adorer un être ou une chose autre que Dieu. La gloire, l'honneur, nous l'avons vu ensemble, pour toute chose, ils doivent être rendus à Dieu. C'est Dieu qui nous donne l'existence, c'est Dieu qui nous donne nos capacités. Et Philippiens 2, verset 13, va même jusqu'à dire que c'est Dieu qui suscite en nous le vouloir et le faire. La gloire et l'honneur reviennent à Dieu. Alors, je suis d'accord, concrètement, c'est nous qui faisons dans notre vie, c'est nous qui agissons. L'homme peut-il être fier de son travail ? Je pense que oui. L'homme peut-il tirer une certaine gloire de ses actes ? Je pense que oui. Mais si l'homme peut tirer de la gloire de ses actes dans une certaine mesure, de la satisfaction, il doit avant tout rendre gloire à Dieu en toute chose. Mais l'homme moderne veut accaparer toute la gloire. L'homme se glorifie et il devient ainsi sa propre idole. Voilà pour moi le drame de notre monde, bien plus que la télévision ou que l'argent. La grande idole moderne, c'est l'homme lui-même. Et cette publicité n'en est que le reflet. Alors, dans le monde, bien sûr, me direz-vous, mais dans l'Église, qu'en est-il ? Eh bien, je ne suis pas à l'abri de ça, même dans l'Église. Prenons par exemple un prédicateur de grand talent. Il serait tellement facile pour lui de se dire « Qu'est-ce que je parle bien ? Je captive. On m'écoute. On me regarde. Grâce à mon talent, à mes capacités. » Vous savez, ça peut devenir extrêmement valorisant, grisant même. Ce prédicateur se glorifie lui-même. Mais d'où lui viennent ses dons ? Il est si facile pour un musicien de se dire « Qu'est-ce que je joue bien ?» Grâce à moi, l'assemblée ne chante pas totalement n'importe quoi. Il se glorifierait lui-même. Mais d'où lui vient son talent ? Il est si facile pour une personne très active dans l'Église de se dire « Et si j'étais pas là ? Qu'est-ce qu'il ferait sans moi ? Je suis indispensable. » Il se glorifie lui-même, mais d'où lui viennent le vouloir et le faire, tel qu'en parle le verset 13. Il est si facile pour une église, pour une communauté, d'admirer un pasteur compétent, un musicien de talent, un dirigeant très actif. Il est si facile de le glorifier. Mais qui donne les serviteurs à l'église ? Je me répète, je pense que le Seigneur nous accorde de pouvoir nous réjouir de nos actes, de nos efforts, du résultat de notre travail, d'en être fier, d'en être heureux, d'en être satisfait. Mais nous avons malheureusement moins le réflexe parfois de dire « Merci Seigneur pour ce que tu nous donnes. Merci de nous donner un enseignant. Merci de nous accorder des responsables compétents dans la communauté. Merci Seigneur de nous accorder des dons à chacun d'entre nous que nous pouvons mettre au service de ton Église. » Les dons que Dieu accorde à chacun d'entre nous ne sont pas faits pour notre satisfaction personnelle. Ils nous sont donnés en vue d'œuvres bonnes. Ils nous sont donnés pour servir. La racine de tout cela, de cette idolâtrie de l'homme par l'homme, c'est finalement la perte de notre humilité devant Dieu. Mais Dieu ne nous laisse pas seuls face à notre orgueil. Il ne nous laisse pas tomber dans cette idolâtrie moderne de l'homme par l'homme. Non, Dieu nous a donné en exemple la plus grande leçon d'humilité et de service de toute l'histoire de l'humanité. Lui, le Dieu Tout-Puissant, lui à qui reviennent toute la gloire et l'honneur, lui, l'infini, est devenu un homme par amour pour nous. Lui, le glorieux, s'est humilié jusqu'à mourir croix. Lui, le juste, est mort pour nous sauver, nous, les coupables. Lui, le maître, est venu servir ses propres créatures. Voilà ce qui peut nous protéger de cette idolâtrie moderne, de cet orgueil ambiant, l'exemple du Christ, son exemple d'humilité et d'amour. Un amour semblable à celui que Dieu nous a montré, un amour tourné vers les autres qui pousse à l'humilité et au service. Un amour qui ne regarde pas à nous-mêmes, mais un amour qui regarde premièrement à Dieu pour prendre exemple sur lui et qui regarde ensuite aux autres pour donner cet amour, le refléter, pour servir, tout comme Dieu l'a fait avant nous, pour nous. Le premier des 10 commandements bannit l'idolâtrie, mais c'est le Christ lui-même qui nous donne le remède contre l'idolâtrie, contre l'orgueil qui peut pousser l'homme à se glorifier. Et je terminerai par ces quelques versets, ces quelques paroles du Christ dans l'évangile de Matthieu. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. » Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Amen.